VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 septembre 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Guinée, un mort et plusieurs blessés dans une manifestation à Boké, centre de l'exploitation de la bauxite.
Le Gabon envisage une loi d'amnistie pour des responsables des violences post-électorales de 2016.
En Afrique du Sud, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein se saisit à partir d'aujourd'hui d'un vieux dossier de corruption contre le président Jacob Zuma.
Le Parlement tunisien a adopté hier, malgré l'opposition de plusieurs députés et de la société civile, un projet de loi sur la corruption.
Le Conseil de sécurité de l'ONU demande aux autorités birmanes de prendre des mesures immédiates pour arrêter la violence contre les Rohingyas.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Guinée, au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées à Boké, centre de l'exploitation de la bauxite, où les forces de sécurité ont ouvert le feu pour disperser une manifestation. Des détails avec Eric Manirakiza.
Les habitants de Boké ont protesté contre le problème d'accès à l'électricité. Ils considèrent qu'ils ne profitent pas de la manne minière alors qu'ils sont victimes de la pollution liée à l'exploitation. Hier, ils ont bloqué les rues pour empêcher les travailleurs de se rendre dans les mines. Les forces de l'ordre sont intervenues, faisant un mort et des blessés. Le directeur général de la société minière de Boké, Frédéric Bouzigué, a dit sentir la tension monter, ses employés n'ayant pas réussi à retourner au travail. La compagnie bauxite de Guinée, CBG, a subi le même sort. Le porte-parole du gouvernement d'Amantang, Albert Camara, a assuré que des mesures ont été prises pour restaurer le calme, mais il a reconnu que la situation est difficile. Boké a connu des vagues d'émeutes fin avril qui ont paralysé cette localité. Des manifestants, essentiellement des jeunes, avaient détruit plusieurs bâtiments publics. Un manifestant avait été également tué pendant l'intervention des forces de sécurité.
La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a invité pouvoir et opposition au Togo à réaliser des réformes constitutionnelles après les mouvements populaires qui ont secoué le pays la semaine dernière. L'organisation régionale ou sous-régionale recommande d'instaurer une limite de 2 mandats présidentiels.
Le Gabon envisage une loi d'amnistie pour des responsables des violences post-électorales de 2016. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé dans une interview à plusieurs médias. Précision de John Linden.
Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba nous a demandé d'envisager une loi d'amnistie qui traiterait au cas par cas certaines situations engageant des personnes qui se seraient rendues coupables de violences durant la crise post-électorale de 2016, a déclaré M. Issoze Ngondé. Une commission nationale sur les violences électorales va être mise en place, a ajouté le Premier ministre. On n'a pas besoin d'avoir parallèlement à cet effort national une initiative venant de la communauté internationale, a poursuivi le Premier ministre gabonais. L'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon le 31 août 2016 avait provoqué des violences inédites au Gabon, manifestations anti-Bongo, interpellations par centaines, assemblées incendiées, assauts des forces de sécurité contre le QG de Jinping, principal rival du président sortant. Malgré cette annonce, le chef du gouvernement a dit rester attentif à l'enquête judiciaire visant Pascal Ouyougou, un opposant inculpé mardi pour complot contre l'autorité de l'État et déféré à la prison centrale.
La révision de la constitution en Guinée-Bissau est de la compétence exclusive du peuple, a estimé hier son président, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré profondément préoccupé par l'impasse politique dans laquelle se trouve ce pays, l'un des plus pauvres du monde. José Mario Vaz répondait au président ivoirien Alassane Ouattara, qui avait estimé pendant une visite au Portugal mardi nécessaire que la constitution soit modifiée pour éviter les problèmes, les difficultés entre le parti au pouvoir et le président.
La justice sud-africaine se penche aujourd'hui sur une affaire de corruption suspendue depuis une dizaine d'années et visant le président Jacob Zuma, mis en cause dans une litanie de scandales qui polluent la fin de son mandat. Pendant deux jours, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein va se pencher sur l'opportunité de rétablir des poursuites engagées contre le chef de l'État pour avoir touché des pots de vin en marge d'un important contrat d'armement.
Le Parlement tunisien a adopté hier, malgré l'opposition de plusieurs députés et de la société civile, un projet de loi sur la corruption. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La loi dite de réconciliation dans le domaine administratif a été approuvée par 117 députés. Plusieurs élus ont boycotté le vote. Devant le Parlement, des dizaines de personnes ont manifesté contre le texte à l'appel du collectif Manisha Msama, « Je ne pardonnerai pas » en arabe. Initialement, le projet de loi prévoyait l'amnistie de certaines personnes poursuivies pour corruption en échange du remboursement à l'État, des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Face au tollé, le texte a été revu. Il ne concerne désormais que les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et n'ayant pas touché de pot de vin. D'après le texte, la loi dit vouloir créer un climat propice à la libération de l'esprit d'initiative au sein de l'administration et renforcer la confiance dans les institutions de l'État. Cela n'a pas suffi à baisser la colère des opposants et de la société civile. L'opposition se demande comment l'Assemblée peut débattre de ce projet alors que le code des collectivités locales n'a toujours pas été adopté à trois mois des élections municipales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Exactions contre les Rohingyas en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU demande aux autorités de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à la violence excessive dans l'ouest du pays contre cette minorité musulmane qui fuit en masse vers le Bangladesh. Le point avec Morgane Guiriec.
À Rangoon, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, qui a annulé un déplacement pour l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, rejette toute critique. Elle a fait savoir qu'elle sortirait publiquement prochainement de son silence. Le Conseil de sécurité a souligné la nécessité d'un accès humanitaire aux Rohingyas. Ses membres appellent le gouvernement birman à tenir ses engagements de faciliter l'aide dans l'état de Rakhine. L'ONU et les ONG n'ont accès à la population Rohingya qu'au Bangladesh. Plus de 379 000 d'entre eux se sont réfugiés dans ce pays limitrophe de la Birmanie depuis fin août. Et des milliers d'autres seraient toujours sur les routes. La répression de l'armée birmane fait suite à des attaques de rebelles Rohingyas. Peu avant la déclaration du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé la Birmanie à suspendre ses opérations militaires contre la minorité Rohingya, considérant que les autorités se livraient à un nettoyage ethnique.
La Minute Éco, Lionel Gahima.
L'ONG Mighty Earth.
Nous nous excusons de cet incident technique, ce sera pour tout à l'heure. En attendant, ici aux États-Unis, les responsables américains de la sécurité ont donné hier 90 jours aux agences fédérales pour se débarrasser des produits et services de Kaspersky Labs, une firme russe basée à Moscou et spécialisée dans la sécurité informatique. La décision a été prise par la ministre intérimaire de la sécurité intérieure, Elaine Duk. Selon un communiqué de ses services, son ordre est fondé sur des risques que constitue l'utilisation des produits de Kaspersky Labs. La principale préoccupation américaine a trait au lien entre certains officiels de Kaspersky et les services de renseignement et autres agences gouvernementales russes.
Par ailleurs, les leaders de la minorité démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat ont annoncé hier un accord avec le président Donald Trump sur l'adoption rapide d'une loi protégeant les Dreamers, c'est-à-dire les immigrés arrivés illégalement en bas âge dans le pays en compagnie de leurs parents. Nancy Pelosi et Chuck Schumer avaient simultanément convenu avec M. Trump de travailler ensemble sur des mesures de sécurité à la frontière qui n'incluent pas le mur entre le Mexique et les États-Unis. Ils ont annoncé cet accord après une réunion axée sur le DACA, le programme qui protège ces Dreamers. Mais la porte-parole présidentielle a donné une autre lecture de cette réunion, disant qu'il a été certes question de DACA et de la sécurité à la frontière, mais qu'il n'a certainement pas été question d'exclure le mur.
Concernant toujours l'immigration, des organisations américaines de défense des droits de l'homme ont intenté un procès contre le gouvernement fédéral. L'accusant de, ils ont intenté ce procès, l'accusant de fouilles illégales dans les téléphones portables et ordinateurs des voyageurs aux frontières des États-Unis. L'ACLU et l'Electronic Frontier Foundation ont saisi la justice au nom de 10 citoyens américains et d'un résident permanent qui se disent avoir été victimes de telles fouilles. Plusieurs d'entre eux, mais pas tous, sont musulmans et personne parmi eux n'avait été accusé de crime ou d'un quelconque méfait.
Le ton est monté mercredi entre le gouvernement haïtien et l'opposition, au lendemain de la violente manifestation contre le budget qui a paralysé Port-au-Prince, les deux camps s'accusant mutuellement d'attiser la colère de la population, victime d'une paupérisation grandissante. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Lionel Gahima.
L'ONG Mighty Earth s'insurge contre la déforestation liée à la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Afin de satisfaire la demande des géants de la chocolaterie comme Nestlé, Cadbury et Mars, de nombreux parcs nationaux des pays et d'aires protégées ont été défrichés pour laisser place à des exploitations de cacao, la matière première du chocolat, déplore Mighty Earth que cite l'AFP. L'ONG pointe du doigt les grands négociants comme Olam, Cargill et Barry Kalebo. En septembre de l'année dernière, la société étatique ivoirienne Sodefor, société de développement de plantations forestières, avait déjà fait état d'une menace de défrichage illégal pesant sur la quasi-totalité des forêts classées du pays. La Gambie se tourne vers le secteur privé pour protéger ses ressources halieutiques, ce pays étant pour parler avec 3 compagnies américaines, néerlandaises et sud-africaines spécialisées dans la fourniture d'équipements de surveillance maritime. Des lacunes dans ce domaine font perdre au trésor gambien quelques 2,3 milliards de dollars par an, selon une étude. Des chalutiers chinois accusés de pêcher sans autorisation dans ces eaux sont régulièrement arraisonnés par les gardes-côtes gambiens. Il y a peu de chances que le Nigeria se joigne avant le mois de mars aux efforts de réduction de la production du pétrole brut de l'OPEP. C'est ce qu'a fait savoir mercredi le ministre nigérian du pétrole Emmanuel Ibe Kachiku. Le Nigeria et la Libye, dont la production est affectée par les crises et les conflits, sont dispensés de cette réduction.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Nessa, bonjour à tous.
La phase de poule de la Ligue des Champions, le tenant du titre, commence bien.
Et oui, le Real Madrid, double tenant du titre de cette Ligue des Champions, a débuté la défense de son trophée par une victoire 3-0 à domicile face à l'Apoel Nicosie, a noté le doublé de Cristiano Ronaldo. Dans le même groupe, Tottenham a battu Dortmund 3-1 et Harry Kane a marqué 2 buts et donné une passe décisive. Face à une équipe de Leipzig dangereuse, Monaco a décroché un point important en Allemagne, 1-1. Dans l'autre match du groupe, le Beşiktaş Istanbul est allé s'imposer sur la pelouse du FC Porto, 3-1. Manchester City s'est largement imposé 4-0 sur le terrain de Feyenoord. Naples a perdu à Donetsk contre une équipe du Shakhtar réaliste, 2-1. Pour son retour en Ligue des Champions et malgré sa domination, Liverpool n'a pas réussi à disposer du FC Séville sur sa pelouse. Match nul, 2-2. Quant à Maribor et le Spartak Moscou, ils ont aussi fait match nul, 1-1.
Et place à la Ligue Europa ce jeudi.
À suivre le retour d'Arsenal dans la compétition. Depuis 2000, le club anglais n'a plus joué de match en Coupe UEFA. Elle s'appelle désormais l'Europa League et Arsenal affronte Cologne. Le Milan AC se déplace chez l'Austria de Vienne. Villarreal face à Astana. Le club turc de Başakşehir, celui d'Emmanuel Adebayor, jouera contre le Ludogorets. Enfin Lyon contre Limassol.
Enfin, les quarts de finale de l'Afro-Basket masculin 2017 débutent ce jeudi à Tunis.
La Tunisie sera opposée aux Léopards de la RDC, le choc maghrébin entre le Maroc et l'Égypte, le Nigeria tenant du titre contre le Cameroun, puis le Sénégal qui tentera de se qualifier pour les demi-finales devant un autre ogre du continent, l'Angola. Les explications d'Amdinsi pour VOA Afrique.
Le palais des sports de Tunis va vibrer ce jeudi avec les quarts de finale de l'Afro-Basket masculin. En effet, les amateurs de la balle orange auront droit à un explosif Sénégal-Angola. Les deux nations les plus titrées en compagnie de l'Égypte s'affrontent Avec en toile de fond un ticket qualificatif pour les demi-finales, le Sénégal, qui a réalisé un parcours sans faute, partira avec la faveur des pronostics, mais la tâche ne sera pas facile pour les Lions de la Teranga, qui auront en face une redoutable formation de l'Angola. Le Nigeria, champion à titre, ne devrait pas avoir de problème pour composer son ticket. Ce sera face aux Lions indomptables du Cameroun. Amédici, Dakar, c'est l'Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, la nomination d'Aliou Sall, frère du président Macky Sall, au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, fait encore des vagues. Hier, les journaux sénégalais ont tiré à boulet rouge sur ce qu'il qualifié de népotisme. Aliou Sall, qui est aussi maire de Guédiouaye, dans la banlieue de Dakar, a été nommé lundi à la tête de la CDC, puissant bras financier et économique du gouvernement sénégalais. C'est une sorte de banque publique géante. Ce bras financier, aux capacités financières sans commune mesure, nous explique Idriss Fall, notre envoyé spécial à Dakar.
Le casse-tête du frère, titre le journal Enquête, qui souligne que cette nomination va donner du grain à moudre à ceux qui dénoncent l'omniprésence de la famille dans les affaires de l'État. Dans le quotidien, l'opposant Malik Gakou dit que c'est une déclaration de guerre contre les intérêts du pays. Macky à l'épreuve du partage du pouvoir, titre Sud quotidien, alors que Walfadjiri estime que le président Sall contredit le candidat Macky. Réaction des Sénégalais.
Mais c'est pas la deuxième fois que M. Macky Sall nous fait ce qu'on appelait de Ablaï Watt le Wahwahed. Il avait promis de réduire son mandat à 5 ans, ça n'a pas été fait. Il avait dit également que tant qu'il serait au pouvoir, il ne signerait jamais un décret de nomination de son petit frère. Pour un poste aussi stratégique, parce que la caisse de dépôt et consignation, c'est une affaire de 600 milliards de francs. Qu'on nomme son petit frère, ça pose la problématique du népotisme dans les pays africains. C'est mon ton beau-frère, ton petit frère, ton beau-père aussi, qui est PCA de Petrosen, tout ça, ça a des relents de népotisme.
C'est normal, dans la mesure où son frère vraiment a les compétences. Parce que dans un pays, pour vraiment pouvoir assurer la bonne gouvernance, ce qui est important, ce n'est pas la question de famille, c'est la compétence. Que ce soit son frère ou que ce soit quelqu'un d'autre, l'essentiel qu'il puisse gérer ça et qu'après son mandat, qu'il puisse vraiment montrer aux Sénégalais que la preuve pour laquelle il a été choisi, elle vaut la peine.
J'évite toujours de parler politique. C'est une position personnelle. Moi, je n'aime pas trop parler de politique.
Ce qui est mauvais, c'est juste que pour des raisons familiales ou autres, un pays comme le Sénégal, l'économie, c'est quelque chose de sérieux. Quand on a besoin de l'aide aux femmes qui sont au niveau des campagnes, l'aide aussi aux gens qui sont dans le monde rural. Et pour ça, il faut que les choses doivent être sérieuses. La nomination des postes doit être au titre du diplôme, mais pas au des problèmes familiaux ou bien quelque chose de ce genre.
C'est pas quelque chose d'étonnant parce qu'il y a une tendance au patrimonialisme des leaders africains, comme on l'a vu quand Wade avait nommé son fils ministre de tout ce qui tombe du ciel. Cette tendance est extrêmement négative. Ça montre que ce qui préoccupe ces dirigeants, soi-disant des pays africains, ce sont leurs intérêts familiaux, leurs intérêts personnels. Comme on est sorti de la colonisation il y a une cinquantaine d'années, on est en train de revivre les mêmes pratiques de prédation que ce qui ont fait l'Afrique ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la crise politique au Togo, marquée par des manifestations de l'opposition et des contre-manifestations du parti au pouvoir. Les opposants dénoncent le projet de loi du gouvernement sur la modification de la constitution et réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Que prévoit ce projet de révision constitutionnelle? Les dirigeants, tant de l'opposition que du gouvernement, doivent-ils privilégier le dialogue pour calmer les esprits? Quelle solution voyez-vous pour régler la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Bénin, contrairement aux années précédentes, c'est le 18 septembre qu'aura lieu la rentrée scolaire que les parents espèrent apaiser. Mais des partenaires sociaux prédisent une année tumultueuse si le gouvernement du président Patrice Talon ne négocie pas avec les responsables syndicaux de Cotonou. Précision de notre correspondante Ginette Fleur à Dondé.
Encore quelques jours et l'école béninoise ouvrira ses portes pour le bonheur des apprenants qui, pour la plupart, sont impatients d'affronter les cours. Certains pensent tout de même n'avoir pas eu suffisamment de temps pour se remettre de l'année scolaire écoulée.
Je vois que le temps des vacances de cette année, c'est insuffisant pour nous les élèves.
Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, on pourrait vite commencer et vite finir l'année.
C'est pas mal quand même que la rentrée commence. Pas eu avant mon bac. C'est trop proche, mais...
Je suis prête si on laisse le temps encore passer avec les amusements et les divertissements, on risque de tout oublier.
Pour une bonne rentrée scolaire apaisée, il faut des enseignants satisfaits ayant le cœur à l'ouvrage. Et même si le gouvernement a pris des décisions fortes, elles ne satisfont pas les responsables syndicaux qui pensent que le gouvernement use de ruses et de manipulations. Pour Noël Chadari de la COSI, la rentrée scolaire risque d'être violemment perturbée si l'État ne joue pas son rôle.
Si le règle pas nos problèmes, l'année scolaire sera perturbée et très bien perturbée. Ça, je peux vous le garantir. Donc pour ça, il faut que le gouvernement négocie au lieu de faire de la com comme ils sont en train de faire là. Commencez par négocier avec les centrales syndicales et regardez en face les problèmes.
L'ancien secrétaire général de la CSTB pense que la balle est dans le camp du gouvernement qui doit se départir des effets d'annonce pour de réelles actions sur le terrain des réformes pour lesquelles il est attendu pour une éducation de qualité et un mieux-être des acteurs du secteur qui vivent dans la misère et la précarité.
Il faut que Talon sache que lorsqu'il est arrivé, il faut qu'il pose les problèmes sérieux de l'école. Et pour régler les problèmes de l'école, c'est avec les acteurs de l'école pour une nouvelle réforme populaire et non des réformes qui amènent l'enseignement de l'anglais à bracadabran qui embrouille le système.
Pour le moment, les écoles sont désertes et attendent d'accueillir les apprenants le 18 septembre, mais on ne sent aucunement les préparatifs sur le terrain, sur les stands de vente de fournitures. La baisse du pouvoir d'achat serait pointée du doigt par certains vendeurs.
On est là, bon, pour le moment, ce n'est pas encore la grande affluence. Et comme les Béninois, on les connaît. Bon, ils attendent toujours les derniers moments. Non, apparemment, les articles ne sont pas chers. Le Béninois le trouve cher compte tenu du pouvoir d'achat qui a pris un coup ces derniers moments.
Pour ce parent d'élève venu juste s'informer des prix des fournitures scolaires, la grande affluence se fera sentir à la veille ou au cours des premières semaines de la rentrée. C'est une stratégie qui espère voir les prix baisser à cause de la mévente.
Je ne sais pas pourquoi, mais certainement beaucoup le font aussi puisque c'est seulement au dernier moment qu'il a d'affluence dans les stands. Voilà, je fais partie de ceux-là qui viennent pour acheter les fournitures.
Le gouvernement, quant à lui, mesure la portée d'une rentrée sans mécontentement et le ministre de l'Enseignement secondaire a su ici de la volonté manifeste du chef de l'État à prendre en compte et à satisfaire au mieux toutes les revendications des travailleurs.
Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la rentrée ait lieu. L'autre paire de manches, c'est la discussion avec nos amis les syndicalistes. Donc tout est planifié déjà pour qu'il y ait une rentrée apaisée.
Beaucoup attendent le gouvernement sur le plan des infrastructures puisque de nombreuses écoles dans la capitale seront fermées les premières semaines de la rentrée parce que inondées à bloc. De Cotonou, Ginette Fleur Dondé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, moins d'un an après sa défaite à la présidentielle de 2016, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a publié un livre dans lequel elle cherche à expliquer ce résultat inattendu. Ses fans faisaient la queue cette semaine à New York pour se procurer un exemplaire du livre intitulé tout simplement « Ça s'est passé comme ça ». Précision de Solange Nyamulisa.
Souriante, Madame Clinton a dû se quitter avec ses fans tout en signant des copies de son livre. Plusieurs attendaient patiemment leur tour dans une longue file devant la librairie Barnes & Noble de New York. Linda Webb était du nombre. Je la respecte, je l'admire, je l'aime. Et je voulais juste être ici, faire partie de ce groupe, cette foule, acheter son livre et le lire. C'est le récit de ce qui n'a pas marché pendant sa campagne, dans lequel elle reconnaît ses propres erreurs, explique Jonathan Lemire, journaliste des Associated Press, ayant lu en avance le livre de Madame Clinton.
I think for her, cela lui donne une chance de peut-être dire une fois pour toutes, voici ce qui est arrivé il y a un an, voici les choses qui, à mon avis, ont contribué à mon échec, des facteurs externes, mais voici aussi mes propres erreurs qui ont aidé Donald Trump à remporter les élections.
L'ancienne candidate démocrate se livre à une sévère critique de son adversaire d'hier, qu'elle jugeait à l'époque incapable de diriger le pays, explique Jonathan Lemire.
Elle dit avoir remarqué jusqu'ici que son mandat le prouve amplement. Elle condamne bien sûr l'interférence russe, mais réserve ses mots les plus durs au directeur du FBI, James Comey, qui selon elle a inversé la course 2 semaines avant le scrutin lorsqu'il a annoncé qu'il allait rouvrir l'enquête sur le scandale des emails.
Comme tant de partisans de Trump, Howard Kaplan nie tout rôle de la Russie dans la défaite de Clinton.
Ces gens trouvent des mystérieuses raisons à ce qui est arrivé alors qu'il n'y a aucun mystère. Les électeurs ne l'aiment pas. Ils préfèrent Trump et voulaient un changement dans ce pays.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee, n'a pas été tendre non plus au sujet du livre de Madame Clinton.
C'est triste qu'après avoir mené l'une des campagnes les plus négatives de l'histoire et perdue, le dernier chapitre de sa vie consiste à faire vendre son livre à coups de fausseté et d'attaques irresponsables.
Hillary Clinton avait remporté le vote populaire, mais perdu au collège électoral avec le vote de 227 grands électeurs contre 304 pour Donald Trump.
La Cour suprême des États-Unis a maintenu le décret migratoire du président Donald Trump bloquant l'entrée aux États-Unis à l'ensemble des réfugiés. Cette décision annule par conséquent un arrêt de la Cour d'appel fédérale de San Francisco qui avait estimé vendredi que les réfugiés déjà approuvés n'étaient pas frappés par ce décret. Eric Manirakiza a joint ici à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Tout est gelé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont décider du côté gouvernement, du côté réfugié. En général, il faut décider une question très importante. Quels sont les pouvoirs dans des affaires étrangères? Question de visa, réfugié, ça tombe dans le domaine des affaires étrangères. Selon la Constitution des États-Unis, le président des États-Unis est suprême. C'est lui qui dirige, c'est lui qui prend des décisions. La Cour d'appel a dit, mais il y a certaines restrictions quand même. Si les gens ont déjà leur visa, on ne peut pas les empêcher. S'il y a des parents, des gens qui sont déjà aux États-Unis. Donc, c'est une grande question qui doit être décidée par la Cour suprême. Donc, ils n'ont pas donné raison à la présidence des États-Unis. Ils ont seulement dit il faut tout arrêter avant que nous puissions prendre la décision.
Mais c'est une décision qui maintient quand même l'interdiction décidée par l'administration Trump.
Temporairement, ça maintient la décision. Parce qu'on ne peut pas demander à la Cour suprême de prendre une décision après que tout le monde est déjà arrivé aux États-Unis. C'est une question importante. Je crois qu'ils ne vont pas freiner. Ils vont prendre une décision assez rapidement.
Plus de 24 000 personnes avaient déjà été approuvées après un long processus de vérification.
C'est dommage. Ils étaient en bonne foi. Ils ont fait une demande d'aller aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis a fait des enquêtes. Tous ces gens-là ont été approuvés. Donc, c'est vraiment dommage que le président des États-Unis lui-même ne laisse pas entrer aux États-Unis. Mais pendant la campagne, il a dit qu'il faut empêcher tous ces gens qui viennent des pays dangereux comme l'Iran, etc. Donc, il a des gens qui l'appuient aux États-Unis, qui sont anti-immigrants, anti-réfugiés, anti-islamistes, etc. Donc, lui, il pense à ces gens-là qui ont voté pour lui. Mais je suis d'accord que c'est ridicule de ne pas laisser ces gens-là entrer aux États-Unis tout de suite.
Est-ce que politiquement, c'est gagnant pour Trump ou c'est perdant sur le long terme?
Oh, je crois que politiquement, Trump fait appel aux gens qui vont voter pour lui, c'est-à-dire les gens de la race blanche qui sont dans la classe ouvrière. C'est une question culturelle. Ils ont peur des étrangers. Ils ont peur des gens qui ne parlent pas anglais, etc. Donc, ce sont les gens qui ont voté pour lui. Et donc, Trump continue à envoyer des signaux vers ces gens-là. Écoutez, je me bats pour vous, n'est-ce pas? Mais finalement, je crois que c'est perdant parce que la grande majorité des citoyens américains ne pensent pas comme lui. Je crois pas qu'il peut gagner une prochaine élection s'il continue dans ce chemin.
C'était l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abderrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.